Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Et oui, les 6h avant minuit, nous sommes le mercredi 15 janvier 2025. Vous écoutez l'émission d'actu locale de Syllab et vous avez bien raison. Je voudrais commencer par un petit tour de table. Les gens nés avant 1980 ici, vous avez déjà des cheveux blancs ? Toufik, je te pose même pas la question parce que t'as pas de cheveux.
Je suis plus jeune.
Désolé. Vous avez déjà des cheveux blancs ou pas, vous ?
Bah, moi, j'en ai un.
Un seul, ok.
Moi, j'en ai pas.
J'en ai pas non plus.
C'est tout.
Un seul aussi, Aglaé ? Ah, je vous demande parce qu'une étude américaine vient de révéler que les personnes nées entre 1980 et 2010, ce qui est presque notre cas à tous ici, eh bien ces personnes auraient des cheveux blancs de plus en plus tôt, et ce, dès la vingtaine. Au début, je me suis dit en rigolant, ça c'est parce que les millennials et la Gen Z se font beaucoup trop de cheveux blancs, premier degré. Dérèglement climatique, montée des extrêmes, durcissement et globalisation des conflits, tout ça c'est source de stress, ça nous fait vieillir prématurément. Eh bien, figurez-vous que je n'avais pas tout à fait tort. En fait, selon le Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, dans lequel l'étude a été publiée, ce grisonnement prématuré proviendrait d'un déséquilibre minéral. Les cheveux foncés tirent leur couleur de minéraux comme le magnésium et le fer. Le stress et la fatigue peuvent épuiser ces minéraux qui se retrouvent alors remplacés par du calcium et du zinc, blanchissant nos tignasses. Moralité, on est tous plutôt détendus ici, je crois. Non
oui, on a reçu des nouvelles couettes chauffantes, on est très détendus.
C'est vrai.
Merci, Cesse.
On peut ailleurs aussi voir ça comme un signe de non-sagesse. Je ne sais pas. En tout cas, j'espère que le flash d'Aglaé ne nous fera pas trop faire de cheveux blancs.
Aujourd'hui, un communiqué du ministère de la Défense russe informe qu'un nouvel échange de prisonniers a eu lieu sous la médiation des Émirats Arabes Unis. 25 Ukrainiens comprenant des militaires et des civils, dont beaucoup sont blessés ou malades selon Volodymyr Zelensky. 25 militaires russes ont aussi été libérés. Depuis le début de l'invasion russe, en février 2022, des centaines de prisonniers ont été échangés. En parallèle, comme en réponse à la frappe ukrainienne d'hier sur des sites énergétiques et militaires russes, Moscou a aujourd'hui touché des infrastructures essentielles de l'ouest de l'Ukraine. Le président ukrainien a déclaré que l'armée russe a tiré plus de 40 missiles et plus de 70 drones. Peu de temps après, l'opérateur électrique national Ukrenergo a annoncé des coupures d'électricité dans presque tout le pays. 3, 2, 1, décollage. C'est probablement ce qui a retenti cette nuit dans le centre spatial Kennedy. À 1h11, la côte est des États-Unis a vu s'envoler la Falcon 9 d'Elon Musk, patron de SpaceX, direction la Lune. À son bord, deux engins spatiaux, Blue Ghost et Resilience, appartenant à deux entreprises distinctes. Le premier est développé par l'entreprise américaine Firefly Aerospace pour le compte de la NASA. Blue Ghost s'apprête à passer 45 jours en direction de notre satellite, transportant 10 instruments scientifiques. Le deuxième robot, Resilience, appartient à l'entreprise japonaise eSpace. Il mettra entre 4 et 5 mois pour poser le pied à Lune, et pas à Terre du coup.
Oh, bien.
Et transporte des instruments scientifiques, mais aussi une maquette de maison réalisée par l'artiste suédois Mikael Gunberg.
Très utile dans l'espace.
Effectivement. Les deux entreprises espèrent parvenir à faire atterrir leur engin sur la Lune et ainsi reproduire l'exploit de 2024 de l'entreprise américaine Intuitive Machines. Le but est aussi de récolter des données et de consolider leur place sur le marché de l'exploration spatiale. Et retour sur Terre, lundi, le ministère kazakh des ressources hydriques a annoncé que le volume d'eau de la petite mer d'Aral a augmenté de 42% par rapport à son niveau initial. Enfin, une bonne nouvelle pour la planète, mais qui reste tout de même à nuancer. Cyriane nous éclaire sur la situation.
Située à la frontière entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan en Asie centrale, cette mer fermée est malheureusement connue pour le désastre environnemental historique qu'elle représente. En effet, alimentée par deux fleuves, elle était autrefois le quatrième plus grand lac du monde. On y pêchait même 40 000 tonnes de poissons en une seule saison. Je vous dis bien autrefois parce que dans les années 50, l'Union soviétique a commencé à détourner les deux rivières qui l'alimentaient pour la production de coton et de blé, causant donc son assèchement quasi total, 90% de son volume d'eau ayant disparu. Aujourd'hui, avec ses 60 000 km², l'équivalent de deux fois la surface de la Belgique, ce désert est une des plus grandes sources de poussière du monde. Et c'est pas mon grenier, donc. Une catastrophe causée par l'humain, irréversible pour certaines parties du lac. L'étendue devenue désert s'est fractionnée en deux zones, avec au sud une cuvette sursalée, presque dépourvue de vie aquatique. Cette partie est condamnée, en cause l'activité humaine combinée au réchauffement climatique. Mais c'est le nord qui nous intéresse, là où se trouve la petite mer d'Aral, en réalité un lac, où, comme tu l'as dit Aglaé, le volume d'eau a augmenté de 42%. Lui permettant d'atteindre 27 milliards de mètres cubes d'eau aujourd'hui. Pour ce faire, une digue de 13 km de long et 4 mètres de haut a été érigée afin de stabiliser son niveau et des milliards de litres d'or bleu y ont été envoyés. En 2024, par exemple, c'est pas moins de 2 milliards de mètres cubes d'eau du fleuve Syr Darya qui ont été acheminés. La première phase d'un plan déployé depuis 2008 par le Kazakhstan est soutenue par la Banque mondiale. Une bonne stratégie pour la biodiversité puisque la salinité ayant baissé, des poissons ont pu coloniser les fonds marins. Mais aussi pour l'économie locale, vivant à l'époque de la pêche et aujourd'hui en difficulté. Cette région très touchée par le réchauffement climatique va devoir à présent réussir à gérer le partage de cette ressource limitée entre les 80 millions d'habitants la peuplant.
Elle est bonne pour nos non-cheveux blancs cette nouvelle.
Effectivement. Merci beaucoup Cyriane pour ton papier. Avez-vous déjà consommé de la cocaïne ?
Oui. Plein. Bip.
Mauvaise réponse.
On va se faire censurer par l'Arcom avec tes conneries.
Selon une étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives sortie aujourd'hui, 1,1 million de personnes en France en ont déjà consommé au moins une fois en 2023, soit presque deux fois plus qu'en 2022. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette hausse. D'abord, les trois principaux pays producteurs, la Colombie, la Bolivie et le Pérou, n'ont jamais autant produit. 2700 tonnes de cocaïne en 2022 contre 1134 tonnes en 2010. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. L'observatoire mentionne la banalisation de l'image de la cocaïne et une évolution des usages, avec des actifs qui l'utilisent pour tenir au travail. Selon Santé publique France, la consommation de drogue s'accompagne de nombreux risques. Surdose, infection, transmission de virus, blessures, maladies respiratoires, entre autres. Et comme l'a dit une fois Gérald Darmanin, la drogue non seulement c'est de la merde, mais c'est grave.
La drogue c'est mal, oui.
À partir d'aujourd'hui, la course contre la montre commence. Jusqu'au 13 mars, les lycéennes et lycéens, ainsi que tous ceux et toutes celles qui veulent changer de voie, peuvent déposer leur candidature sur la très controversée plateforme Parcoursup. Depuis le 18 décembre, il est possible d'estimer ses chances d'être retenu grâce à un simulateur. Pour cela, il suffit d'indiquer sa moyenne générale en terminale ainsi que ses spécialités. L'objectif affiché du ministère chargé de l'enseignement supérieur est la transparence du processus d'admission, ainsi que la volonté d'aider les candidats dans leur réflexion sur le choix de vœux. On souhaite bonne chance à tout le monde, évidemment. Depuis le 1er janvier, une ZFE, zone à faible émission, a été mise en place à Rennes. Conséquence, les habitants et habitantes de l'agglomération rennaise ne peuvent plus y circuler sans une vignette critère. Une vignette avec un numéro de 1 à 5, interdisant au fil des ans l'accès des véhicules les plus polluants au centre de la ville. Anthony nous en dit un peu plus.
Guillaume, chauffeur poids lourd, va nous donner ses impressions sur la ZFE.
Et nous balance ça comme ça d'un mois sur l'autre. Donc là, pour des gens qui ont des faibles moyens, c'est juste inadmissible. Bon, pour moi, c'est juste un moyen un petit peu de limiter les gens dans leurs déplacements.
Une salariée de Rennes, qui souhaite rester anonyme, va nous donner ses impressions.
Je déplace toujours avec ma voiture, ça n'a aucun... eu aucun impact pour l'instant. Depuis que la ZFE a été mise en place.
Lisa Béroumonier, chargée de mission mobilité durable de l'Agence locale de l'énergie et du climat du pays de Rennes.
La ZFE, elle a pour objectif d'améliorer la qualité de l'air parce qu'en France, on estime à 40 000 décès par an dû à la mauvaise qualité de l'air dans les villes. C'est aussi une loi qui date de 2021, la loi climat et résilience, qui impose à toutes les métropoles de plus de 150 000 habitants de mettre en place ces zones à faible émission.
Santé publique France a conclu que 40 000 décès en France chaque année étaient liés aux particules fines. Cet établissement public a également précisé qu'elle faisait perdre 8 mois d'espérance de vie.
Pour l'instant, seuls les véhicules immatriculés avant le 1er octobre 1997 ne peuvent plus circuler. Dès 2027, l'interdiction concernera les véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2001. Êtes-vous féru de cinéma ?
Oui !
Alors ne loupez pas l'avant-première du nouveau film de Saïd Amiche, La mer au loin. Ça se passe demain à 20h15 à l'Arvor en présence du réalisateur. La mer au loin, c'est un mélange de drame et de romance. Le film raconte l'histoire de Nour, immigré clandestin à Marseille, qui vit de petits trafics et mène une vie marginale et festive. Et il va faire des rencontres qui vont bouleverser sa vie. La sortie nationale du film est-elle prévue pour le 5 février ? Et si jamais vous n'aimez pas le cinéma, j'ai autre chose à vous proposer pour votre jeudi soir.
Dis-nous tout.
Demain, aux ateliers du vent, de 18h à 23h, est organisé le deuxième microclimat. Au programme des performances poétiques et numériques, vous pourrez donc retrouver nos réalités virtuelles hashtag 2, une installation sonore et interactive de Bérangère Amiot qui questionne nos imaginaires géographiques. Venez aussi admirer les décors scéniques d'Agathe Merca. Enfin, à 21h30, laissez-vous porter par l'éclipse industrielle de Dipo, un DJ set industriel de la UK Bass, le tout expérimental. À Rennes, tout près de la Vilaine, le bistrot Alphonse, tenu par Olivia, Pierre et Yves Gardel, a été distingué d'une toque Goemio seulement 2 mois après leur ouverture officielle. Eva est allée leur rendre visite pour en savoir plus.
Ça, c'est mon petit bébé à moi.
Olivia Gardel parle bien ici de sa cave à vin, située derrière son nouveau bistrot au niveau de la terrasse.
Le concept, c'est de faire de la cuisine locale et de saison. Et ça s'est un peu fait très vite, assez naturellement. Il y a cet endroit, moi j'ai envie de faire ça, moi j'ai envie de faire ça. Moi je veux une cave à vin, moi je veux un resto. Faisons tout ensemble.
Pour que ce soit plus clair, le bistrot Alphonse est un bistrot, un restaurant, une cave à vin, mais aussi un bar et un café. Vincent, un des cuisiniers, me présente leur dernière recette.
Il y a du foie gras sûrement. J'ai un velouté de céleri avec de la scaramouche à fumer. Il y a rien de prévu, on arrive comme ça et puis c'est vraiment l'instinct, vraiment, figue, il n'y a pas de secret.
Avec une carte qui change tous les 2 à 3 jours.
Pas le temps de s'ennuyer ici.
Et grâce à leur instinct en cuisine, il y a maintenant 4 mois, le bistrot a reçu sa première toque Goemio.
C'est le Goemio, quand il passe dans un restaurant, on ne sait pas qui passe, mais après qu'il soit passé, on reçoit un mail pour dire le Goemio est passé chez vous. Donc nous, on a reçu ce mail, ça fait 2 mois qu'on était ouvert.
Et donc, qu'est-ce qu'une toque ?
Une toque, ça équivaut en fait à une cuisine bien établie, bonne cuisine, bon rapport qualité-prix, ambiance sympa, c'est un peu un tout par rapport à la cuisine. Ils nous ont même pas prévenu qu'on avait eu la récompense, on l'a vu sur le Goemio, on avait eu une note.
Avant même que je demande la note, son père, Yves Gardel, m'interpelle pour me dire...
11 sur 20, c'est une super note pour eux.
Oui, on a eu 11 sur 20. En fait, il existe une toque, 2 toques, 3 toques en niveau de toque. 11 sur 20, ça vaut une toque. 13, c'est 2 toques. Finalement, on nous a dit non, c'est super. Bravo à vous.
Et quels effets cool de ce beau 11 sur 20.
On a eu beaucoup de personnes qui sont venues suite à ça. Donc beaucoup de personnes qui ont confondu étoile et toque, ce qui a été compliqué parce que nous on a un bistrot de quartier sans prétention et on a notre clientèle fidèle d'habitués qui viennent et on a cette nouvelle clientèle qui vient beaucoup critiquer, analyser et juger de manière pas très agréable. Et c'est pas facile à entendre. Après maintenant je me suis dit en fait je m'en fiche, les gens qui connaissent, les habitués et continuent de revenir, c'est ça qui est essentiel. Et fait bien à manger, on mange bien, on boit bien et c'est sympa et détendu mais on n'a pas envie de... Le but c'est pas de gravir les toques et les échelons, on veut rester un bistrot de quartier.
Pour devenir le ou la nouvelle habituée du bistrot Alphonse, rendez-vous 4 rue Alphonse Guérin. Et merci Eva pour ce reportage.
Yvon.
Et merci Aglaé pour ce flash de qualité. Nous avons un invité de marque, Syllabien, ce soir.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabien.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Vêtu d'un camaïeu de bleu, de son écharpe à son pull, il sort son premier roman, Les Amants disparus du pont Beaumarchy. Je reçois donc ce soir Belson alias Toufik. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors déjà, de quoi il parle ce livre, ce premier roman ?
Ben, il parle un peu de tout. Il parle de ma vie, étant enfant. Un peu de l'autobiographie, un peu de mes emmerdes, de mes amours, un peu de tout. Quoi. Il y a des recettes de cuisine même, il y a de l'humour, il y a des scènes dramatiques. Il y a aussi de l'histoire de la guerre d'Algérie, un petit peu du 8 mai 45, que j'ai inclus dans ce roman. Quand on le lit, on a l'impression mais vraiment de... On ne se retrouve pas dès le départ, mais vraiment, c'est ça qui est intéressant dans ce livre, c'est-à-dire on se perd dès le départ. On a l'impression, les premières pages déjà, on est sur un truc mystique, vous savez, qui parle d'ailleurs, c'est les seigneurs des anneaux, et on bascule directement vers Glasgow et l'Écosse. D'ailleurs, vous m'avez parlé de l'Écosse tout à l'heure, mais il parle de l'Écosse, parce que j'ai vécu en Écosse quand même 5 années, hein, j'ai vécu là-bas. Et puis il parle de Jane qui a existé réellement, donc je la décris un peu méchamment. Je suis vraiment désolé dans ce livre.
Excuse officielle, voilà. Sur les zones de
Syllabien. D'ailleurs, je lui dis. Et puis soudain, il reçoit un appel où son père est gravement malade. Donc c'est son frère Francis qui est un autre phénomène. Ce sont des personnages, mais vraiment, que j'ai eu du mal à placer. Mais une fois placés, ce sont des personnes qui racontent un petit peu la vie en Algérie. Parce qu'on a l'impression que l'Algérie, c'est monotone. C'est un pays qui est complètement... on parle de l'islamisme, des femmes voilées, mais non, il y a quand même des femmes qui ont un tempérament assez fort, comme Sarah, par exemple, que j'ai décrit ici comme une femme vraiment libre, mais qui est très belle, qui a...
La louve, c'est ça
La louve blanche, on l'appelle la louve blanche, pourquoi ? Parce qu'elle a terrorisé un inspecteur, comme elle travaille à l'hôpital, donc tout près de son père, là où son père est hospitalisé, Jimmy alias Jimmy, donc Jimmy, on l'appelle Jimmy, qui est arrivé, et puis il est arrivé avec un accoutrement rouge, un manteau qui évoque un petit peu les anciens rois et puis les anciens soldats et empereurs romains, un gilet qui a le style écossais avec, vous savez, le tartan et tout ça, et puis tout est rouge, et il neige à Sétif. D'ailleurs, il est en train de neiger à Sétif actuellement. Donc, il y a 50 cm de neige, donc il n'y a pas de transport. Et puis, il va marcher. Et cette scène, elle est magnifique. Donc, on a un point rouge qui est le seul point qui apparaît sur la neige. Imaginez la scène. Donc, quand il arrive à l'hôpital, il est moqué déjà par ça, qu'il appelle le petit chaperon rouge. Fais attention, petit chaperon rouge, il y a les loups qui risquent de te dévorer. Et puis, bon, il y a son père qui est sur le lit, enfin, pratiquement de la mort. Et il lui dit, écoute, tu ressembles pratiquement à un ballon de foot. Et ainsi de suite, il y a vraiment des scènes un petit peu émotionnelles, et des scènes aussi très humoristiques. Et puis, il y a l'histoire, le sérieux de l'histoire.
Et du coup, comme tu l'as dit, il y a ce point de départ, un peu, enfin, ce point historique important qui est le 8 mai 1945.
Ah oui.
Est-ce que tu pourrais rappeler ce qui s'est passé à Sétif C'est tout au nord de l'Algérie.
Vous savez, je suis sétifien, je suis un enfant de l'indépendance, donc je n'ai pas vécu, moi, les guerres. C'est vrai que j'ai assisté un petit peu à cette décennie noire de l'Algérie des années 90. J'ai vécu, je crois, une année ou deux, on en parle. Mais le 8 mai 45, ça a été le déclenchement un petit peu de la guerre d'Algérie. Et les Français, jusqu'à présent, ne comprennent pas qu'est-ce que c'est. Le 8 mai 1945, il s'est produit un phénomène. Donc, Mon père a été enrôlé, d'ailleurs, que j'ai décrit un petit peu. C'est pas vraiment mon père, mais j'ai les Belgassem, c'est mon père. Donc c'est le pseudo de... Et mon père a été enrôlé à l'âge de 16 ans dans l'armée française pour aller combattre les Allemands. Donc il est parti là-bas. Et le 8 mai 45, donc, il y a eu ce qu'on appelle un accord qui s'est fait entre les politiciens Farhat Abbas, je ne sais pas si vous connaissez, c'était le premier président du gouvernement provisoire d'Algérie, qui a négocié avec les alliés, et surtout avec Roosevelt, la libération de... Enfin, d'avoir une liberté, on ne dit pas, c'est-à-dire l'autonomie, mais qu'il y ait au moins l'égalité des droits entre les autochtones, c'est-à-dire qu'on appelle les indigènes, et les colons français, ce qui n'a pas été fait. Donc, quand il a eu cet accord avec Roosevelt, donc on lui a promis, si jamais, par exemple, les indigènes algériens participent à cette guerre, donc il y aura discussion après. Et lors de la libération, mon père, il a été bloqué ici. Il était à Bandamaden, il ne pouvait pas rentrer en Algérie parce qu'on les a bloqués. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce phénomène. Donc, il y a des gens qui sont sortis. Ça a commencé à Sétif, dans ma ville. Hein. Ils sont sortis dans la rue avec un drapeau. Et puis, ça a commencé, c'était le jour des marchés. C'était un mardi, un jour de marché où il y avait beaucoup de monde. Donc, automatiquement, voilà. Les colons qui étaient là et puis le lieutenant, donc ils ont reçu l'ordre de tirer sur la foule. Et ça a commencé, ça a bardé, ça a commencé à tirer. Il y a des morts du côté français, je crois. Enfin, il y en a qui parlent d'une centaine, d'autres qui parlent à peu près d'une dizaine. Et de l'autre côté, donc, il y a eu aussi un certain nombre de morts, pas plus. Mais le lendemain, ça a été le commencement d'une série d'assassinats qui a duré, je crois, jusqu'au mois de juin. Et ça n'a pas arrêté. On tire sur tout ce qui bouge. C'est-à-dire, on y va et on tire. Et ça a été une histoire malheureuse. D'ailleurs, je l'ai décrit un petit peu parce que ce sont... Nous, pourquoi je vous ai dit je suis un enfant de l'indépendance ? Parce que moi, les histoires me sont arrivées oralement. Et c'est très, très fort dans cette ville de Sétif. On ne le retrouve pas à Alger, ni à Oran ou ailleurs. Hein. Mais à Sétif, c'est très fort. Et les jeunes, la jeune génération, elle est... On dirait qu'elle a été vaccinée mais au 8 mai 45. C'est resté dans le sang. Imaginez ce temps-là. Un enfant de 5 ans qui perd son père devant lui, assassiné devant lui. Qu'est-ce qu'il devient ? Il devient un soldat. Et c'est ce qui s'est produit une dizaine d'années après. 45, 54, le déclenchement de la guerre d'Algérie. Et je raconte comment, par exemple, les parents de Jimmy... On fait la guerre d'Algérie à l'âge de 12 ans. Lisa, la mère de Jimmy, elle est partie au maquis à l'âge de 12 ans. Et bon, je ne vous raconte pas tout parce que sinon ça va gâcher. Et voilà l'histoire. Ça, c'est ce qu'on appelle une grande histoire. Il y a des petites histoires qui se sont produites, dont mon quartier Beaumarchais. D'ailleurs, Beaumarchais, personne ne connaît ce quartier. Aujourd'hui, maintenant, il va être connu. C'est un plaisir. Et le pont de Beaumarchais. Le pont... D'ailleurs, l'histoire, c'est une histoire d'amour, c'est ce qu'on voit d'après le titre. Mais non, c'est une histoire un peu rocambolesque. Et l'histoire des parents de Jimmy qui se sont rencontrés. Donc, il s'est produit une guéguerre entre, pendant la guerre d'Algérie. Il y a eu ce qu'on appelle des luttes pour le pouvoir entre le FLN, le Front de Libération Nationale, qui a pris l'Algérie après, et le MNA, le Mouvement National Algérien, par Massali Hedge. Donc il y a eu, et ça s'est produit à Lyon, donc je raconte aussi des histoires à ce niveau à Lyon. Et puis on a donné l'ordre, le père de Jimmy, il est parti, donc il est devenu un petit peu l'espion, un petit peu l'architecte de ce qui se passe ici en France, et on lui a donné l'ordre de tuer Lisa. Et cet ordre ne passait pas. On n'a jamais donné l'ordre de tuer une femme, d'autant plus qu'elle est algérienne. Puis elle est belle, cette femme. Donc il a contacté, il lui a dit, écoute, tu es menacé. Et puis voilà, l'histoire a commencé. Donc l'histoire du pont, ils se sont rencontrés juste après l'histoire de Lyon, ils se sont rencontrés. Et puis leur mission, c'était à eux deux, c'était de faire sauter le train qui était... qui ramenait l'armement pour les soldats français. Et donc, ils ont décidé de faire dérailler ce train. Et... Mais ce qui s'est produit, c'est autre chose. Donc, ils se sont rencontrés depuis Lyon. Donc, ils se sont vus à City. Ils ont oublié les bombes. Ils ne les ont pas fait fonctionner parce que leur idée, c'est de faire exploser le pont et puis de récupérer les armes. C'est le contraire qui s'est produit. Donc, ils se sont embrassés. En s'embrassant, donc, le train a déraillé. Mais comment il a déraillé le train? C'était des jeunes qui mettaient un petit peu le métal sur les rails pour l'aplatir, pour qu'ils jouent avec. C'est tout. Et le train a déraillé. Enfin, et c'est devenu une histoire à tiroir. Les amants disparu du pont du Bain. Donc, c'est devenu une histoire qui était entretenue un petit peu dans les foyers. Les soirées, on raconte... Oh, on a fait dérailler un train, un couple amoureux, tu vois, qui ont disparu. C'est vrai, ils sont disparus, mais où ? Personne ne sait. Il n'y a que le père de Jimmy qui le sait et qui le savait. Et puis, Jimmy, quand il est arrivé de Glasgow pour aller à l'hôpital, donc il voulait connaître son histoire, non seulement son histoire à lui, mais aussi l'histoire de ses amants disparus du pont de Manche. Mais en fin de compte, il va découvrir que sa mère n'était pas sa mère et sa mère était quand même une héroïne. Et ainsi de suite. Et c'est parti en vrille après, mais vraiment, entre le père qui raconte sa propre histoire de la guerre d'Algérie, l'héroïsme du père, et puis il amplifie un petit peu l'histoire, il raconte à l'hôpital, donc c'est devenu, sa chambre est devenue une salle de conférence, et tu as les anciens, les ex un peu qui sont hospitalisés, qui sont là. Et ainsi de suite, voilà, je raconte pas un peu plus, je vous ai donné un peu plus, beaucoup de ce livre.
On va pas tout raconter.
Comment ?
No spoilers.
Voilà. C'est une très belle histoire.
Et du coup, c'est une histoire qui se passe à Sétif, là où, bah, du coup, comme tu l'as dit, tu viens. Et tu es aussi architecte urbaniste. Ouais. Et, est-ce que ça a influencé ta façon d'écrire ? Enfin, comment tu écris, ta façon de voir les choses, de décrire ?
Énormément. Vous savez, quand j'étais architecte, il y a Le Corbusier, hein, je suis architecte de formation, je suis conseiller en urbanisme actuellement, mais bon, pas trop, hein, je suis plus éditeur que conseiller, mais je vais travailler sur un projet à Sétif. Et l'idée de l'architecture, c'est Le Corbusier, un grand architecte et puis penseur en architecture, qui disait « Malheur à qui manque l'imagination ». Vous voyez, donc l'architecture, c'est aussi cette imagination. C'est-à-dire le fait d'avoir cette imagination. Si on n'a pas cette imagination, on est dessinateur, si vous voulez, de plans, c'est tout. On n'est pas architecte. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout ce qui est... parce que le plan, il ne vient pas comme ça. Donc, on ne peut pas dessiner un plan, mais on peut le faire. Mais si on n'a pas l'imagination et puis la composition volumétrique et tout ça, et ça m'a beaucoup aidé dans l'imaginaire et l'imagination de ce roman, parce que je l'ai structuré un petit peu comme je structure un plan. Et ça a été, c'est parti, mais je ne vous dis pas, j'étais dans un état un peu second. Hein, à un certain moment, je ne dormais pas. J'ai passé une fois 48 heures, je crois, à écrire. Parce que les idées, quand elles arrivent, on est tout le temps en train... Je vous raconte une histoire, par exemple, que j'ai écrite dans ce livre. Je suis sorti pour aller faire les courses. Et tout de suite, j'ai trouvé une jeune fille qui était en train de pleurer. Elle était en train de suyer sa morve sur le visage. Donc, puis on
charmant.
A le train... Comment ?
Charmant.
Je vous assure. Hein, je l'ai un petit peu calmée parce que c'est une voisine. Et puis, elle essuyait. Donc, elle se calmait. Elle essuyait sa morve sur le visage. Donc, il y avait un tableau. Je marchais un petit peu. J'ai dit, merde, ça, c'est une belle... Et je l'ai mise ici. C'est Ahmed qui l'enclipse. Je racontais ça. J'ai dit, je regarde le tableau que m'a donné Ahmed. Hein. Il essuie sa morve. Il était en train de pleurer, Lisa. Donc, cette scène-là, je l'ai mise un petit peu dans le livre et ainsi de suite. Et quand j'ai essayé, je vous raconte une... Quand j'ai essayé de tout de suite, quand je suis revenu pour écrire cette idée, donc j'avais un besoin, il fallait aller aux toilettes, je sortais et puis j'écrivais l'idée, je regardais, purée, ma braguette était ouverte et puis le pantalon était mouillé et j'ai raconté ça, c'est-à-dire quelqu'un qui est parti à l'hôpital et puis il sort, il a oublié de fermer la braguette et puis tu as des gouttes d'urine qui tombaient. Non, j'ai raconté ça, j'ai dit merde, ça c'est intéressant, il faut le raconter. Et c'est ça qui a fait un petit peu, j'ai ramené un peu d'épices, un peu, si vous voulez, à l'histoire. Voilà, de rien du tout, donc on finit des fois par... Et l'imagination et l'imaginaire, c'est-à-dire quand il est fait de choses réelles, là, c'est un jeu assez costaud, hein, je vous assure, c'est pas évident. Il y a une autre chose, je comprends pourquoi les intellectuels des fois sombrent vers la folie, parce qu'on est sur un fil entre la réalité et la folie. Et quand on est dans la peau du personnage, surtout celui du Jimmy, il va pas vous quitter, hein, et pas facilement. C'est sur les conseils d'une amie écrivaine, Nadia Alcaraz, qui m'a dit « Toufik, écris un autre roman, tu verras ». Et je marchais tout seul et je parlais comme Jimmy. Donc, j'étais Jimmy. Et c'est difficile. Hein.
Et tout à l'heure, tu parlais de l'édition. Enfin, quand tu étais dans le processus d'édition. Du coup, les éditions, c'est tes propres éditions, les éditions, ouais. Edna. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as monté cette maison d'édition? Pourquoi tu l'as montée?
Comme le livre, hein, je fais comme ça, un coup de tête et c'est... Voilà, c'était un coup de tête. Hein. Okay. Et je suis assez contente du livre d'éditer.
Et du coup, lundi, tu seras présent à l'espace, ouais. West France, c'est ça?
Oui, je vais présenter ce livre pour la première fois. Invité par la librairie Le Fayer, donc ça se passe le lundi 20 à 19h. Et ça va être animé par Arnaud Westberg, qui était sur Radio Alpha, Radio Catholique Français, RCF.
Ouais. Ok, et donc les gens pourront venir te poser des questions à ce moment-là.
Ah oui, j'aimerais bien que les gens viennent, et puis surtout les jeunes, parce que c'est un livre qui s'adresse à eux. C'est pas parce qu'il contient de l'histoire de l'Algérie, mais il y a aussi l'histoire de Jimmy, hein, qui est très intéressante, qui est perdu un petit peu dans cette grande histoire. Il veut avoir sa propre histoire. Mais c'est rocambolesque. Hein, c'est même l'enterrement de son père qui est complètement... Il y a de tout dans ce livre. Il y a même la recette du couscous. Hein.
Et puis sinon, je glisse un mot, on peut t'entendre aussi sur Syllabe régulièrement, c'est ça?
Oui, oui.
Deux mots sur ton émission, pour les gens qui seraient intéressés, rapidement.
Oui, bien sûr. Pardon, mais j'ai pas...
Tu peux dire deux mots sur ton émission?
Ah ben, sur Syllabe, j'ai commencé ce projet début de cette année. Et ça concerne un petit peu tout ce qui est littéraire, c'est-à-dire les sorties littéraires. On a travaillé sur Kamel Dawed, sur Yasmina Khadra, sur des écrivains locaux comme Nadia Alcaraz. Gérard Prébel, on lui a fait un hommage, qui est décédé récemment. Et puis voilà, c'est un grand écrivain et ainsi de suite. C'est une émission qui est aussi un mélange entre la musique et puis la littérature. Je ne sais pas si vous avez entendu les bons morceaux. C'est moi qui écris les chansons. Hein. Je suis parolier aussi de musique. Hein.
Que de talent. Donc un lundi sur deux, c'est ça, Évasion des mots
sur deux,
à
ouais.
19h.
Si voilà, 19h.
Si je ne me trompe pas.
Ouais.
Super, mais merci Toufik.
Merci,
bonne continuation.
Hein, merci, c'est très gentil, merci.
6h avant minuit.
Comme chaque mois de janvier, on parle beaucoup du fameux Dry January, un défi qui invite à faire une pause dans sa consommation d'alcool, une démarche de bien-être et de discipline, un peu comme le sport, non? Et pourtant, un paradoxe s'impose. Pourquoi l'alcool, nocif pour la santé, est-il si présent dans le monde du sport, synonyme de performance et de santé? Dans sa chronique sport, Marilyn décrypte ce duo que l'on doit repenser.
Bonjour à tous. Donc effectivement, le sport, c'est la santé, la discipline et la performance. Et l'alcool, lui, est connu pour ses effets néfastes sur le corps. Mais pourtant, ces deux mondes cohabitent depuis des décennies. Pourquoi? Donc tout d'abord, pour une question économique. En effet, l'association entre le sport et l'alcool est présente grâce au sponsoring des marques qui ont flairé le filon, c'est-à-dire qu'ils se sont dit « Ah, on va se faire beaucoup d'argent parce qu'on est exposé à un large public ». Par exemple, en NFL, Budweiser, donc une marque de bière, est présente depuis les années 80. Donc ça fait quand même pas mal de temps. Et ensuite, vous avez aussi Heineken qui est partenaire avec la Ligue des champions de football et Guinness qui est présent plus dans le rugby. Donc on peut voir ensuite que l'alcool aussi, il y a ce côté cause, parce qu'il y a aussi dans la tête des gens, c'était cette alliance en fait de festivité, c'est-à-dire que les marques ont réussi dans leur marketing à implanter dans la tête des supporters que la fête serait plus folle avec de l'alcool. Malheureusement, on a aussi des dérives avec l'alcool, dans les stades notamment, avec les violences et les hooligans, qui est présent depuis très très longtemps. Ensuite, concernant la place de l'alcool auprès des athlètes, en faisant mes recherches, donc, j'avais pensé plus aux dérives que les athlètes avaient en réponse à la pression médiatique qu'ils avaient, qui a fait ma surprise d'apprendre qu'au début du XXe siècle, les sportifs buvaient de l'alcool pour supporter la pression, mais durant le sport. Par exemple, dans le Tour de France, les cyclistes buvaient du vin pour accélérer leur performance. Mais bon, vous vous rendez bien compte que sur le long terme...
Ils ne roulaient plus trop droit, en fait.
Voilà, voilà. Ça faisait plus trop effet. Et ensuite, en cherchant une autre histoire, j'ai trouvé l'histoire des Jeux Olympiques avec un marathonien dont son coach l'a breuvé d'alcool et à la fin, il a failli mourir. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, avec l'alcool, bah, ça ne faisait pas ménage. Et c'est pour ça que les gens se sont dit que l'alcool et le sport, c'était pas vraiment, un bon mélange. Donc au niveau des spectateurs, on avait aussi une vision où ça encourage les comportements à risque, comme j'ai dit tout à l'heure, mais ça banalise aussi l'alcoolisme au niveau des jeunes. C'est-à-dire que plus tu vas boire, plus ça va être un facteur de virilisme, de masculinité, un peu toxique, soyons honnêtes. Ensuite, pour terminer, l'initiative du Dry January, donc ça peut être une piste pour les sports en général, de penser autrement, c'est-à-dire de faire des campagnes de sensibilisation, puisque c'est un sujet sur lequel on n'aborde pas, mais les sportifs commencent à en parler en disant que ce soit pendant leur carrière ou après leur carrière qu'ils ont utilisé l'alcool comme échappatoire et ils essayent de sensibiliser les jeunes au risque qu'il y a en lien avec ce fléau. Donc on peut se poser comme question si on peut dissocier définitivement le sport et de l'alcool, ou ce lien est-il devenu indissociable ? C'est-à-dire que même par exemple pendant la Coupe du Monde au Qatar, où c'était interdit, dans les espaces VIP, il y avait quand même de la vente d'alcool. Mais chaque année, on se dit qu'en ce mois de janvier, des milliers de personnes essaient de faire l'effort de réduire leur consommation d'alcool. Alors pourquoi pas dans le sport ? On en saura un peu plus dans les années à venir.
Eh ben oui, pourquoi pas. Merci Marilyn. Un dernier petit mot avant la fin de cette émission.
Ah, le téléphone.
Téléphone.
Allô ? Allô ?
Syllab, la radio sauvage.
Notre téléphone n'a pas sonné hier, le répondeur est vide, mais si jamais vous avez envie de vous exprimer, de nous donner des envies de sujets... de faire un retour sur nos reportages, tout ce que vous voulez, de faire passer un message, vous pouvez nous laisser un message vocal au 02 30 96 25 35, il sera diffusé à la fin de cette émission. Et puis nos jeux concours continuent, deux jours en ce moment. Syllab vous offre deux places pour deux événements du festival de danse Waterproof. Le spectacle Rupture de Mercedes Dessy, ça se passe le mercredi 29 janvier à l'air libre de Saint-Jacques-de-la-Lande. Et aussi deux places pour la soirée Let's Dance Waterproof avec la Reine des Voyous au platine. Et ça se passe le 1er février à l'UBU. Pour jouer, vous avez besoin d'un mot de passe. Le mot de passe, c'est...
Ah, le mot de passe.
C'est triangle, ah, comme la cité de la danse.
Soit l'un, soit l'autre.
Et oui, pas rond, pas carré, triangle. Et puis l'autre jeu en ce moment concerne le festival Autre Mesure. Deux places à gagner pour la conférence sur rien de John Cage, lue par Jérôme Bell à la chapelle du conservatoire le 25 janvier. Et là, le mot de passe, c'est...
Il n'y a pas de mot de passe.
Voilà, deep. Merci Eva pour la technique. À demain.
Si. La radio sauvage.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab, la radio sauvage.